travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Christophe Colomb, viens avec nous.
Nous sommes la postérité. Nous sommes le jugement des hommes. Viens voir ce que tu as fait sans le savoir. Viens voir ce que tu as découvert sans le savoir. Prends ta place, prends ton trône.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Christophe Colomb connaît aux États-Unis, par les temps qui courent, des moments qui sont plus que difficiles. Dans le parc mémorial de Yonkers, ville limitrophe de New York, une sculpture à son effigie a été récemment décapitée en parodie de mise à mort. Une autre a été vandalisée dans le Queens en août 2017. Et à Baltimore, un obélisque, élevé en l'honneur du découvreur de l'Amérique en 1792 lors du tricentenaire de son arrivée aux îles Bahamas, a subi le même sort. Les ouvrages, les proclamations, les chansons qui le peignent comme un monstre se sont multipliés là-bas depuis 3 décennies. Il n'est guère de figure parmi les personnages qui dominent de haut l'histoire des hommes, concrètement et symboliquement. Il n'est guère de figure qui ait connu des avatars aussi violemment contrastés. À d'autres époques, Christophe Colomb a été célébré comme une incarnation sans pareil du courage, de la lucidité, de la prémonition. Et voilà bien un contraste qui appelle, qui exige une enquête destinée à éclairer la succession des sensibilités collectives quant à l'homme dont il s'agit. Et comme Denis Crouzet, professeur à la faculté des lettres de Sorbonne Université, vient de rééditer son livre majeur consacré à l'amiral de la mer Océane, en le complétant d'une longue et précieuse postface inédite sur sa vie posthume depuis 500 ans, j'ai éprouvé comme indispensable d'inviter cet historien qui est du premier rang. Il va nous aider à comprendre les ressorts et la portée d'une évolution aussi prodigieuse en vérité de l'image de Christophe Colomb. Notre conversation va se dérouler en direct depuis le Salon du Livre de la Porte de Versailles, conformément à une tradition que nous honorons chaque année. Et si vous entendez un léger brouhaha de fond, je vous autorise à l'interpréter métaphoriquement comme la longue rumeur des siècles.
Je demande à prendre la défense du roi d'Espagne.
Il ne s'agit pas spécialement du roi d'Espagne, mais de tous les souverains, de tous les gouvernements, de toutes les autorités de l'échiquier bureaucratique que vient déranger le génie.
Qui aurait fait autant pour Colomb que Ferdinand avec Isabelle? Qui aurait nommé amiral et vice-roi cet inconnu, cet aventurier, ce métèque? Qui lui a donné ses bateaux, ses marins et son argent?
Ce petit mouvement de foi, le métèque le fou les a payés avec un monde.
Il ne savait pas ce qu'il avait découvert.
Je savais beaucoup plus que vous ne savez.
Tu te décides donc à parler. C'est à toi que je m'adresse, Christophe Colomb. Charlatan, ignorant, halluciné, marchand d'esclaves, menteur, révolté, incapable, calomniateur. Pourquoi es-tu venu déranger l'Espagne de sa vocation et de toutes ses traditions respectables? Pourquoi l'as-tu attiré vers l'autre monde? Pourquoi es-tu venu déranger l'Europe de son petit travail? Ce n'est pas d'être enchaîné seulement que tu méritais, c'est d'être fusillé.
Toutes ces fautes, ces illusions, ces soupçons, ses mensonges, sa jalousie, son égoïsme, sa cruauté, son mépris de ce qu'il avait découvert, au prix de ce qu'il n'avait pas trouvé encore. Mais tout cela, ce sont les fautes de l'amour. Un homme en proie à l'amour, qui saurait le juger?
Quel amour?
L'amour de la terre de Dieu, le désir de la terre de Dieu, le désir de la possession de la terre de Dieu.
Denis Crouzet, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai offert, pour ouvrir notre conversation, un extrait de la pièce qui s'intitule « Le livre de Christophe Colomb » de Paul Claudel. C'est une pièce de 1927 qui est ici mise en onde pour la radiodiffusion française par le Club d'essai le 21 février 1947, l'accompagnement musical étant d'André Jolivet. Claudel imagine, dans les derniers temps de la vie de l'amiral, un procès où il s'efforce d'obtenir les gratifications que mérite son aventure. Et on a entendu un opposant et un défenseur, et finalement, sa voix en personne.
Et ainsi, tout de suite, le problème s'est posé, et Claudel le transcrit en quelque sorte, dès les premières années de la découverte du Nouveau Monde, Colomb a été perçu comme un personnage ambigu, oscillant entre la méconnaissance de toute science, entre une ambition démesurée, entre une cupidité immense, et d'autre part, la figure illuminée de celui qui découvre le monde au monde et qui est porté par Dieu dans cette vocation. C'est là tout le paradoxe qui va traverser ensuite tous les siècles.
Et voilà, en somme, l'éventail de toutes les interprétations contemporaines et surtout posthumes de la figure majeure de l'amiral de la mer Océane.
Il faut bien rappeler qu'à la fin du troisième voyage, il est ramené en fond de cale, enchaîné, et que son histoire est déjà perturbée par les accusations, essentiellement d'oppression des Indiens, de massacre, de violence, et surtout de cupidité des honneurs, d'une ambition qui, par là même, irait contre le désir des rois catholiques qui ont choisi, après la capitulation de Grenade, après le décret d'expulsion des Juifs des royaumes d'Espagne, de lui donner cette possibilité, avec trois bâtiments, des caravelles de différentes tailles, de prendre cette route vers l'ouest qui était pour tous les contemporains une impossibilité, ou pour la plupart.
Alors je voudrais, Denis Crouzet, que d'entrée de jeu, vous nous rappeliez, et tout le monde connaît bien le détail naturellement, mais enfin, il vaut mieux prendre quelques précautions, que vous nous rappeliez à grands traits quelle était l'histoire de Christophe Colomb et des quatre voyages qu'il a fait vers le Nouveau Monde. D'où vient-il, cet homme-là?
Malgré toutes les suppositions les plus alambiquées qu'on a pu poser, il est originaire de Gênes, né en 1451, ayant navigué en Méditerranée orientale, jusqu'à l'île de Kio, par exemple, pour acheter du mastic, ayant aussi navigué en Atlantique, peut-être jusqu'en Islande, certainement en Irlande, ayant donc eu une existence de marin au service de compagnies commerciales.
Bien qu'il fût originaire d'une famille d'artisans de Gênes, de la région de Gênes.
C'est cela, c'est donc un aventurier des mers, comme il y en avait des dizaines, qui cherchaient à se mettre au service de compagnies commerciales, ou surtout, à partir du moment où, dans son esprit, ce grand projet d'aller vers l'Asie par la route maritime de l'Ouest surgit.
Il faut bien comprendre que c'est vers l'Asie qu'il croit aller, c'est fondamental.
L'Ouest, oui, parce que il se construit un imaginaire du globe terrestre qui repose sur un calcul erroné du degré et qui fait que ce globe se réduit non à une vingtaine de mille de kilomètres de circonférence. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Asie est beaucoup plus proche que on peut l'imaginer nous-mêmes sur cette réduction, cette contraction du globe terrestre. Et également, comme il adhère à une théorie qui est que 6/7 ou 5/6 de ce globe terrestre est constitué de terres émergées, l'Asie est très proche.
Sipango, c'est le Japon.
Sipango, c'est le Japon, et le Katay, qui veut aussi atteindre, et la Chine. Avec ce mythe de maisons dont les, et de palais dont les toits sont recouverts de tuiles, de avec un plaquage de feuilles d'or. Donc l'or, pourquoi l'or? Parce que c'est l'or dont les rois catholiques ont besoin pour, après Grenade, adhérer toujours plus au mythe de croisade, au rêve de croisade.
Grenade reprise aux musulmans.
Voilà, Grenade reprise aux musulmans. Donc, aller par cette route directe jusque en Chine et au Japon, convertir les souverains et par là même pouvoir prendre à revers le monde musulman et libérer Jérusalem, cette obsession de Colomb, de restaurer la Santa Casa, le temple de Jérusalem, qui serait le signe de l'unité du monde, enfin retrouvée, d'un monde qui serait réuni sous le règne du Christ.
Et c'est pourquoi sa détermination, sa foi, son formidable caractère réussissent à persuader les rois catholiques qu'ils peuvent soutenir cette expédition. Il y en aura quatre. Appelez-nous à grands traits, avant que nous arrivions à la postérité de Colomb, appelez-nous, Denis Crouzet, à grands traits, ce qu'ont été ces quatre expéditions.
Non. Le départ de la première expédition, 3 août 1492, l'arrivée à la première île, San Salvador, Guanahani, le 12 octobre 1492, et ensuite un voyage qui l'emmène sur la côte nord de Cuba et par retour sur la côte nord de ce qu'il va appeler l'île espagnole.
Hispaniola.
Et qui est Saint-Domingue, où ils fondent une première ville, la Navidad, la ville où ils laissent, avant de revenir, une garnison de 39-40 hommes pour attendre et marquer surtout que la terre est désormais sous la bannière des rois catholiques.
Dans un premier temps, il a l'impression de débarquer dans un paradis terrestre, chez ceux qu'il appelle les Indiens, pour la raison que vous avez dite. Et puis, peu à peu, la brutalité renaît.
Il y a une construction, je dis, tragique chez Colomb, dont on ne sait pas si elle ne relève pas d'un processus de persuasion, de la nécessité d'aller toujours plus avant dans la conquête. En tout cas, les descriptions qui sont données de ce premier voyage, dès San Salvador, c'est une humanité adamique. Donc,
Adamite au sens du paradis terrestre.
C'est un paradis terrestre qui aurait échappé presque au péché originel. Ce sont ces Indiens qui n'ont pas, par exemple, de barbe, qui ont les mentons glabres, et c'est ainsi qu'on représentait l'humanité avant le péché.
Et vous permettez, Denis Crouzet, de laisser la parole à Christophe Colomb à votre dépens,
bien
pour
sûr,
qu'il puisse lui-même nous dire ce qu'il a éprouvé. C'est un extrait de son journal de bord, lu ici par Roger Bray dans l'émission « Il y a un dit de l'histoire » de Jacques Le Goff et Pierre Cipriot. On était sur France Culture le 11 mai 1981, le 13 octobre, samedi 13 octobre 1492, la rencontre avec les Indiens.
Le 13 octobre, samedi. Dès le point du jour, accoururent sur la plage un grand nombre de ces hommes, tous jeunes et de bien belle allure. Leurs cheveux ne sont pas frisés, mais raides et gros comme des crins de cheval. Leur front et leur visage sont très larges, plus que tous ceux que j'ai déjà vus de par le monde, et leurs yeux sont aussi très beaux, pas petits du tout. Je n'ai vu aucun homme noir, ils sont tous de la couleur de ceux des Canaries, et cela se comprend puisque cette île se trouve à l'ouest à la même hauteur que celle de Hierro aux Canaries. Tous ont des jambes très droites et le ventre bien plat. Ils arrivent sur leur canoë, faits comme de longues et grandes barques, mais d'un seul tronc d'arbre, travaillés à merveille, et si grands que l'on y compte jusqu'à 40 ou 45 hommes. Ils rament avec une espèce de pelle comme nos boulangers, et ainsi avancent très vite sur l'eau. Si l'un de ces canoës se renverse, ils se jettent tous à l'eau et le vident avec des calebasses qu'ils ont partout avec eux. Ils nous apportaient des pelotes de coton filé, de grands perroquets, des flèches. Il nous donnait tout cela bien volontiers pour la moindre babiole. Je remarquai aussitôt que quelques-uns d'entre eux portaient un petit morceau d'or accroché à leur nez, et, en leur parlant par signes, j'arrivais à savoir que, en allant plus loin vers le sud, je trouverais une terre où un roi possédait de grands vases en or. Cette île m'a semblé bien étendue, plate, sans montagne, très verte, et plantée de beaux arbres. On y trouve partout de l'eau, et en son milieu est une belle lagune. Le coton pousse sur cette île, et l'or y mûrit, puisqu'ils en portent suspendu à leur nez. Cependant, je ne veux pas m'attarder davantage, car je veux voir si je peux atteindre l'île de Cipango. Journal de Christophe Colomb.
Toujours l'île de Cipango, le rêve messianique.
Le rêve messianique est, de la part de Colomb, la certitude qu'il est celui que Dieu a désigné pour précisément aller toujours plus loin et trouver ce qui est un don de la grâce dans les représentations du temps, l'or, et à chaque fois, à chaque rencontre, question l'or, et l'or est toujours plus loin, donc il faut continuer. Il descend à partir de ce moment-là jusqu'à Cuba et l'île espagnole.
L'or à la fois rassure la grâce et rejoint la cupidité.
C'est bien le paradoxe fondateur du mythe de Colomb et de son ambiguïté. Alors, deuxième voyage en 1493, qui, cette fois-ci, lui permet d'explorer toute la côte sud de Cuba et celle de l'île espagnole, mais au cours duquel, dès le début, tout est vicié, parce qu'il découvre la garnison qu'ils ont laissée à la Navidad massacrée, et un processus alors s'enclenche, le bon indien devient un agent de Satan contre lequel il faut user de tous les moyens pour le réduire à l'obéissance et le faire travailler à la gloire des rois espagnols.
C'est le début du travail forcé.
Le travail forcé va intervenir un peu plus tard, mais il est en œuvre déjà dans le projet de Colomb.
Alors, à la fin de cette histoire, les derniers voyages.
Deux autres voyages, 1498 et 1502. Et 1498, il aborde le continent américain, va jusqu'à l'île aujourd'hui de Trinidad et la terre ferme. Et quatrième voyage, 1502, où il descend jusqu'au Nicaragua. Donc, le problème qui se pose avec Colomb, c'est que cet élu de Dieu qui abordait au paradis transforme ce paradis en un enfer, parce que la violence contre ces Indiens qui résistent au travail, qui résistent à la domination, entraîne massacre sur massacre, et qu'en plus, les Espagnols se divisent des situations de guerre civile entre Colomb et certains des officiers qui l'accompagnent.
Et donc, c'est bien cette ambivalence dramatique qui explique pourquoi le personnage de Colomb post-mortem dont nous nous occupons ce matin, a été si riche de diversité,
oui,
allant tout à coup du côté du pire et parfois du côté du meilleur.
Il est celui qui a désenclavé le monde, qui est donc perçu comme le fondateur, entre guillemets, de la modernité, mais c'est aussi le premier des guerriers de Dieu. Tout doit se plier à la volonté divine, à commencer par ces Indiens qui sont massacrés. On a des chiffres qui oscillent, mais les îles étaient peuplées d'autour de entre 3 et 8 millions d'habitants. Lorsque Colomb meurt, déjà 9 dixièmes de la population ou 8 dixièmes de la population a disparu. C'est un immense drame qui se déroule et on ne peut pas cacher cette responsabilité historique d'un homme qui symbolise l'avancée aussi de l'Occident.
Nous allons voir tout cela. Vous le définissez comme le plus errant des acteurs de l'histoire. Mais déjà, sa dépouille mortelle a beaucoup erré, symboliquement.
Oui. Oui, il est enterré à Valladolid, à sa mort, en 1506, déplacé deux fois dans des sanctuaires différents. Et puis, à l'initiative de son fils, il est inhumé dans la cathédrale de Saint-Domingue. Et déplacé quand les Français obtiennent Saint-Domingue, dans la cathédrale de la Havane, avant, au tout début du XXe siècle, de revenir de revenir, et cette fois-ci à Séville, dans le grand mausolée que l'on connaît.
Donc vous nous apportez une assez mauvaise nouvelle. Si nos auditeurs veulent aller se recueillir sur la tombe de Colomb, il faudra qu'ils fassent une croisière assez longue.
Surtout qu'on a retrouvé, en faisant des excavations dans la cathédrale de Saint-Domingue, on a retrouvé une caisse de bois marquée avec une inscription comme quoi ce seraient des restes de Colomb. Donc il y a deux corps en quelque sorte, un dans l'île de Saint-Domingue et un autre à Séville, avec des recherches d'ADN qui sont entreprises par des scientifiques que j'appellerais obsessionnels.
Nous sommes à la pointe de la modernité.
Voilà, pour en plus essayer de trouver d'où était originaire Colomb, parce que toutes les revendications possibles sont venues, vous les connaissez, il peut être corse, il peut être basque, il peut être anglais, il peut être...
Vénitien, majorquin, arménien, catalan, sarde, grec, aragonais, voilà. Oui, c'est pas mal, hein.
Voilà, et donc des universitaires de l'université de Valence ont entrepris de faire des recherches d'ADN sur toutes les personnes ayant aujourd'hui un nom, Colombo, Colonne, etc.
On se l'arrache voilà. Dès qu'on le pose comme personnalité, comme personnage positif. Alors arrivons, si vous voulez bien, au XVIe siècle. Déjà, cette image est très discutée. Les crimes, les réalisations, la découverte.
Oui, les premiers grands historiens espagnols, dont López de Gomara, sont travaillés par la nécessité de montrer que la découverte est avant tout une découverte dont les rois catholiques sont redevables. Donc, le personnage de Colomb, génois, pose problème, et c'est là où est repris un motif qui circulait auparavant dans les milieux marins qui étaient allés au Nouveau Monde. Colomb aurait recueilli l'héritage d'un marin perdu qui, avant lui, serait allé dans ces îles et lui aurait livré le secret avant de mourir. C'est le thème du protonaute qui est exploité de façon hyperbolique pour faire que la découverte, puisque le protonaute est espagnol, est avant tout espagnol. Que Colomb, finalement, est un plagieur qui s'est attribué une découverte qui n'était pas la sienne.
Le nationalisme, avant le nationalisme, va se nicher partout.
Exactement.
Et puis, il y a les grands débats autour des droits de l'homme, déjà, on n'emploie pas l'expression, c'est-à-dire la brutalité. Je vais vous faire entendre un extrait d'une très belle pièce, d'un téléfilm qui s'appelait La controverse de Valladolid. Vous le connaissez sûrement, Denis Crouzet, qui a été réalisé par Jean-Daniel Verbeeck en 1992, d'après un très beau scénario de Jean-Claude Carrière. Et je pense que vous reconnaîtrez la voix de Jean-Pierre Mariel, qui est dans le rôle de Bartolomé de Las Casas, et Jean Carmet dans le rôle du légat du pape. Vous nous direz après quelle était la personnalité essentielle de Las Casas en ces temps-là.
Comme l'a dit Christophe Colomb lui-même, le premier qui les rencontra, je ne peux pas croire qu'il y ait au monde meilleurs hommes. Depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Ce que j'ai à dire est si affreux que je ne sais pas par où commencer. Il y aurait là de quoi remplir un énorme livre.
Parlez à votre aise.
Depuis les tout premiers contacts, les Espagnols n'ont paru animés et poussés que par la terrible soif de l'or. C'est tout ce qu'ils réclament, de l'or. De l'or, apportez-nous de l'or. Au point qu'en certains endroits, les habitants des terres nouvelles disaient « Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet or? Ils doivent le manger. Tout est soumis à l'or. Tout. » Aussi, depuis le début, les malheureux Indiens sont-ils traités comme des animaux, privés de raison. D'abord, on les marque comme esclaves au fer rouge du nom de leur propriétaire, au visage. Quand ils passent d'un propriétaire à l'autre, on les marque encore et encore. Ces marques s'accumulent sur leur visage qui devient comme du vieux papier.
Vous parliez aussi de massacres.
Oui. Éminent, c'est par millions qu'ils ont été exterminés. Oui, par millions, comme des bêtes à l'abattoir.
Et par quel procédé?
Tout est bon. Quelquefois, on les embroche par groupe de 13. On les entoure de paille sèche, on y met le feu. D'autres fois, on leur coupe les mains et on les lâche dans la forêt. En leur disant, allez porter les lettres.
Ce qui signifie?
Allez porter le message. Allez montrer aux autres qui nous sommes.
Et pourquoi par groupe de 13?
Pour honorer le Christ.
Dites-nous maintenant, comment ont-ils réagi aux atrocités dont vous nous parlez?
Éminence, je vous l'ai dit. Leur naturel est si doux et nous avons frappé si fort qu'ils n'ont jamais trouvé la force de nous résister. Alors ils sont allés vers le désespoir. Les mères ont tué leurs bébés pour qu'ils ne deviennent pas nos esclaves. On a vu grand nombre d'enfants naître morts à cause de certaines herbes que leur mère avait prises. Ces créatures en sont arrivées à ne plus aimer la vie. D'ailleurs, les hommes n'approchent plus de leurs femmes pour ne pas avoir de descendants. En plus, des maladies nouvelles les accablent, que nous leur avons apportées par le viol, le plus souvent. Oui, ils ont perdu tout désir de vivre. On voit tout un peuple immense qui agonise au nom du Christ.
Ce prêtre dominicain qui est Las Casas s'efforce de démontrer dans la controverse de Valladolid, Denis Crouzet, que les sauvages, entre guillemets, sont aussi des humains. C'est le grand débat. Et chemin faisant, il parle beaucoup de colons.
Alors, Las Casas est une des sources. Pour bien connaître Colomb, lui est plutôt un apologiste de Colomb, mais ce sont les Espagnols, dans la vision de Las Casas, qui ont dérouté de sa fin ce plan divin qui s'incarnait dans Colomb, avec toutes ces cruautés épouvantables, justifiées donc au nom d'une théorie dont Sepúlveda se fait le dispensateur. Les Indiens sont près des bêtes, et comme l'a écrit Aristote, ils doivent être traités comme des bêtes, ils peuvent être mis en servitude pour que progressivement ils soient amenés à un état humain plus élevé.
Dans l'histoire posthume de Colomb, Las Casas représente le courant qui dit les Espagnols ont été affreux et ce n'est pas la faute de l'amiral. L'amiral, lui, au contraire, a été trahi par eux. Il écrit « Je ne doute pas que si l'amiral avait pensé qu'il devait se produire un ravage aussi pernicieux que celui qui se produisit, jamais il n'aurait osé entamer une chose qui devait entraîner de si calamiteux dommages, car personne ne pourra dire qu'il n'était pas homme, bon et chrétien. » On est là à grande distance des interprétations contemporaines hostiles à Colomb, ceux qui vont peindre en rouge la main de l'amiral statufié.
Donc, dès la brève relation de la destruction des Indes, Las Casas s'attaque à ces Espagnols qui massacrent, brûlent, tranchent les membres des Indiens, les font pourchasser par des molosses. On est là devant le grand drame qui a été proposé à la conscience chrétienne de l'Occident très tôt, et dont on retrouve des traces alors dans les dénonciations, par exemple, des historiens calvinistes de la fin du XVIe siècle qui véhiculent cette légende noire tout en gardant Colomb pur de cette violence, de ces atrocités.
Avançons, nous sommes obligés de le faire, il faut courir la poste, cher Denis Crouzet. Avançons jusqu'au XVIIIe siècle. Vous nous dites dans votre beau livre sur Colomb qu'il fournit une sorte de boîte à outils de la pensée.
Tout simplement parce que il va y avoir toute une série d'auteurs qui vont s'attaquer à la signification historique de Colomb. Cela va aller de John Locke, qui va voir en lui le préfigurateur du jugement tel qu'il le définit, appuyé sur l'expérience, et donc s'opposant à l'âme pervertie de ceux qui estiment avoir le savoir inné en eux. Cela va aller de Voltaire qui, dans Candide, va réfléchir au problème posé par Colomb.
C'est lui qui parle de l'œuf de Colomb, rappelez-nous ça.
L'œuf de Colomb, il s'agit de Colomb répondant à ceux qui mettent en doute son savoir et qui le présentent comme un halluciné qui ne sait pas où il va, ne sait pas où il est, croit être en Asie, et qui le pose et montre que l'œuf peut tenir, est un symbole de ce savoir qu'il a, qui ne s'ouvre pas en quelque sorte.
Il faut qu'il soit dur, naturellement, pour qu'il puisse être. Et on lui dit, mais comment avez-vous fait? C'est tellement simple. Il a dit, mais puisque c'est simple, que ne vous en avisiez-vous?
Oui, oui. C'est donc là encore un travail sur la figure de Colomb qui est plutôt positive. Mais alors à côté, vous trouvez un penseur des Pays-Bas de Pau qui lui dit que tout ce qui a commencé avec Colomb, c'est une barbarisation en quelque sorte de l'homme chrétien qui est allé dans des mondes où globalement les hommes vivaient dans une sorte de dégénérescence de l'humain, et que aller dans ces nouveaux mondes sur les traces de Colomb, s'y installer, c'est soi-même se placer au risque de la dégénérescence. Donc que finalement tout était mieux avant Colomb. On a aussi bien un projet colonial qui se trouve véhiculé chez les théoriciens anglais comme Hakluyt ou autres, et puis un projet anticolonial qui peut reposer alors aussi sur les descriptions des atrocités.
Alors il y a un temps où Colomb brille de tous ses feux, en violent contraste avec son image dégradée d'aujourd'hui, c'est le 19e siècle. L'époque romantique depuis Victor Hugo jusqu'à Heredia. Vous seriez frustré, je le sens, si je ne vous donnais pas à entendre le poème très célèbre de José María de Heredia de 1893. Vous me dites que votre père, François Crouzet, le savait par cœur.
L'avait su aussi par cœur, rares souvenirs d'école.
Eh bien, Lagarde et Michard et d'autres nous ont appris à quel point ce poème est important et à quel point il est beau. Voilà les conquérants de Heredia, 1893, comme un vol de Gerfaut, etc. Écoutez.
Comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal, fatigué de porter leur misère hautaine, de Palos, de Moguer, routiers et capitaines, partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines, et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré, où, penchés à l'avant de blanches caravelles, ils regardaient monter en un ciel ignoré du fond de l'océan, des étoiles nouvelles.
J'ai choisi Denis Crouzet, l'interprétation par Gérard Philippe.
Oui, alors là, nous sommes un peu plus tard, mais la grande expansion de Colomb intervient avec les poètes romantiques. Ce peut être Hugo, ce peut être Nerval, ce peut être Lamartine, qui voit dans Hugo une allégorie...
Dans Colomb
de... qui voit dans Colomb une allégorie de leur travail. L'âme libre de toute contrainte, celui qui part à l'aventure sans savoir où il va et qui, par là même, va recevoir une inspiration qui est celle des poètes.
C'est un homme qui souffre, qui est rejeté, qui se sent rejeté.
Qui est triste,
enfin affamé d'infini en même temps, entravé et incompris.
Et donc, la métaphore qui sert à définir ce Colomb, c'est celle de l'aile. Il est comme ailé, s'élevant au-dessus des contingences terrestres.
C'est l'albatros déjà de Baudelaire, en certaine façon.
C'est déjà, et il va en avant, porté uniquement par ce qui lui vient de lui-même, de cette inspiration qui est sacrée.
Victor Hugo, en 1856, assimile Colomb à une sorte de poète inspiré. C'est un élu. Écoutez ses vers, il dit « Silence à la douleur, sa vergue peut être une aile, voilà votre aile, partout où parvient sa prunelle, l'âme emporte ses pieds de plomb, l'étoile dans sa solitude, regarde avec inquiétude blanchir la voile de Colomb. »
Oui, une métaphysique de Colomb comment parler de la poésie, si ce n'est en parlant de cet homme qui est parti à l'aventure, sans savoir où il allait, tout en croyant savoir où il allait, et qui se perd dans cet océan, dans cette beauté de l'océan qui est symbolique de l'écriture.
Il y a une biographie de Colomb, on ne le sait pas toujours, tardive, de Lamartine,
oui.
À la fin de sa vie. Il l'inscrit dans les plans, finalement, d'unité de la création, comme Alexandre, César, Mahomet, Charlemagne, Napoléon, une belle liste.
Oui, on a vraiment là un changement de perspective. Il n'est plus question de déshabiliter ou de réhabiliter Colomb. Il est question d'essayer de voir dans Colomb celui qui symbolise l'envolée du poète vers un autre monde.
Et dans ce 19e siècle qui est si riche, si fécond pour l'histoire de Colomb après sa mort, les historiens aussi s'en saisissent. Michelet montre que ce serait l'allégorie de l'alliance entre la croyance et la liberté, de ce que doit être l'historien quand il se penche vers son passé. Vous relisez un peu de Colomb, monsieur le professeur, chaque fois que vous prenez la plume pour faire de l'histoire?
Non, mais j'ai été frappé de cette fascination qu'ont eu Michelet, Quinet aussi, qui était un frère d'armes pour ce personnage, qui peut nous permettre à nous, peut-être, de penser que l'histoire doit rester une aventure contre les tentations ultra-positivistes qui reviennent. Ce sont deux historiens qui se détachent parce qu'ils n'adhèrent pas à l'école positiviste et qui voient dans Colomb la liberté de penser de l'historien qui est capitale pour Michelet et qui fait qu'il pense contre, avant tout, pour penser. C'est ça qui est formidable dans cette identification de l'historien à Colomb, c'est que l'historien Michelet ou l'historien Colomb sont des historiens qui s'opposent aux idées reçues et surtout au facticisme positiviste.
La poésie, l'histoire et la philosophie. Vous avez relevé, Denis Crouzet, dans votre livre, dans votre réflexion sur Colomb, après Colomb, un beau texte que j'ignorais, je veux dire, de Nietzsche dans le Gai Savoir. Où il prend Christophe Colomb comme sa figure tutélaire. En somme, nous avons quitté la Terre, nous nous sommes embarqués, nous avons coupé les ponts, bien plus, nous avons laissé derrière nous la Terre. C'est un extrait du Gai Savoir. Et voyez ce texte posthume. Montez sur vos vaisseaux, ce qui nous est nécessaire, c'est une nouvelle justice et une nouvelle libération et de nouveaux philosophes. La Terre morale est ronde, elle aussi. Et la Terre morale a aussi ses antipodes. Et les antipodes ont aussi leur droit à l'existence. Il y a, toujours Nietzsche qui parle, il y a un monde nouveau à découvrir, et même plus d'un, à vos navires, à vos bords, philosophes.
Oui, il participe de cette invasion de Colomb dans la façon de penser le travail, là, du philosophe, mais la représentation aussi du musicien. Beethoven est présenté comme le Colomb de la musique, avec la 9e symphonie dans un texte. Donc, et on peut en venir, je pense aussi à des appréhensions politiques qui sont caractéristiques du monde nord-américain dès 1775, le contexte de conflit avec la puissance anglaise génère une exaltation de Colomb face à celui au navigateur qui représente l'Angleterre, Cabot, d'où une hésitation à nommer les terres qui vont se séparer de l'Angleterre, Columbia. Finalement,
L'université de Columbia à New York.
Et donc, un collège qui va devenir l'université de Columbia, mais aussi des nombres de villes, le district de Columbia.
La capitale de la Caroline du Sud, Columbia aussi. Columbus, qui est dans l'Ohio, la capitale de l'Ohio. Et tout ça, on est dans le cadre du tricentenaire, 1792. Bonne période pour Christophe Colomb post-mortem.
Oui, parce qu'il incarne alors la volonté de lutter contre le despotisme, contre les pouvoirs anti-républicains, etc. Toujours le motif de l'esprit libre et de la capacité d'une nation à se libérer de la tyrannie, lui qui finalement a dû conniver avec les rois catholiques, mais dont on dit qu'il était en réalité mu par le seul souci de faire avancer vers un progrès l'humanité.
Les géographes et les explorateurs prennent aussi Colomb comme figure tutélaire. Je pense à Alexandre de Humboldt, le grand voyageur, qui se peint lui-même. Il découvre des terres inconnues entre 1799 et 1804 comme le second découvreur de l'Amérique.
Et qui revient de son long voyage dans le monde américain, exactement comme Colomb, avec des caisses et des caisses de plantes, d'arbres, des objets, et qui, lui, identifie Colomb à la science en mouvement. La science géographique, mais aussi la botanique, etc.
Il y a un moment ensuite où la religion s'en saisit et où certains prophètes de l'avenir de Colomb, certaines grandes voix s'élèvent pour demander qu'on le béatifie et même qu'on le sanctifie. Oui. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Léon Blois, je pense en particulier.
Rosalie de Lorgues et Léon Blois, la voix dans Colomb. Un moyen de recharger le catholicisme d'un sens. Colomb n'a pu découvrir le Nouveau Monde que parce qu'il était l'agent envoyé par Dieu pour permettre que le christianisme se déploie sur toutes les terres. Et dans le présent, il faut aller contre les visions, c'est ce que pensait Rosalie de Lorgues, contre les visions laïques de Colomb, donc l'agent de la science, l'agent de la philosophie, et exalter en lui une sainteté, d'où une demande de canonisation, puis de béatification, sur lesquelles la papauté va être très prudente, parce que Colomb est aussi celui qui a vécu certainement en concubinage, bigamie plus ou moins.
C'est pas bien du tout, ça s'appelle.
Très obscur.
C'est le seul saint qui aurait été bigame, d'après votre science patristique.
Là, vous me dépassez ma science.
C'était mon rêve, c'était vous coller sur un point, Denis Crouzet.
Mais en tout cas,
j'y suis parvenu.
En tout cas, la papauté laisse en apnée ce processus. Mais il y a un Colomb, saint.
C'est celui un peu de Claudel, au fond, que vous avez entendu en commençant.
Claudel est celui qui, après Blois, va reprendre ce projet.
Alors un mot pour évoquer un auteur majeur dans cette histoire posthume de Colomb, je pense à Jules Verne.
Jules Verne écrit un ouvrage qui s'intitule « La découverte de la Terre », qui est une succession de figures de ces génies, entre guillemets, qui ont participé de ce grand désenclavement. Et bien sûr, Colomb occupe une place essentielle. Il est figuré comme l'homme du passé, mais aussi du demain. Celui qui annonce que la science va apporter à l'humanité une bonification qui sera toujours plus grande et qui, par là même, entraînera les hommes vers tous les acquis que l'industrialisation est en train de promettre, que la découverte des inventions nouvelles vont promettre. C'est un inventeur avant les inventeurs du 19e siècle. Il a inventé un nouveau monde.
Au fond, il annonce Phileas Fogg, le capitaine Nemo, le capitaine Atlas.
Voilà.
et tous ces personnages.
Tous les grands personnages de Jules Verne.
Mathias Sandorff.
Ont en eux l'empreinte de cette vision de Colomb qu'a Jules Verne et qui est sans doute la plus totale parce que c'est tout l'ensemble des sciences qui se trouve et toute la connaissance qui se trouve résumée dans Colomb pour le mieux de l'avenir de l'humanité.
Alors le tricentenaire était brillant pour Colomb, le 400e anniversaire en 1892 n'a pas été mauvais. En revanche, le cinquantenaire est catastrophique pour son image, car tout à coup il émerge comme une personnalité négative. Et tout l'effort des auteurs précédents pour distinguer l'amiral des méchants espagnols qui avaient commis des horreurs, cet effort se dissipe. C'est le temps où, par exemple, le reggae, c'est vous qui m'avez demandé qu'on le fasse entendre, Denis Crouzet. J'ai salué votre compétence dans ce domaine. Écoutez le chanteur jamaïcain de reggae, Burning Spear, c'est ça, oui, Burning Spear. Ma compétence est également... je ne la commente pas. C'est une chanson qui s'appelle Columbus, justement, du chanteur jamaïcain Burning Spear, donc qui est sorti en 1980. Écoutons-en un morceau, et puis je ne doute pas que vous nous traduirez les paroles.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Donc, le chanteur de reggae explique que Christophe était un enfoiré de menteur, je traduis, un menteur de merde, et qu'il était un grand. Oui, qu'il avait menti parce qu'il prétendait avoir découvert la Jamaïque alors que l'île était peuplée d'Arawak et d'un bon nombre d'hommes noirs.
Et surtout qu'il était un Babylonien qui avait détruit ce monde.
Pourquoi Babylonien? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est dans la mythologie, reggae, le mal est identifié à Babylone. Et donc, il est un Babylonien, celui qui a détruit ce monde qui était heureux avant. Et il faut appeler tout le monde entier a nié son existence parce que c'est une coupure dans l'histoire qui n'aurait jamais dû arriver. Et alors, il y a tout un discours qui se met en place à l'occasion de ce cinquième centenaire, 1992, entraînant des rituels. Par exemple, en 1993, un procès qui se tient à Fort-de-France.
En Martinique.
En Martinique, à l'initiative du cercle Frantz Fanon, avec un avocat, l'accusé qui est présent en effigie, et des accusateurs qui disent qu'il a initié ce qui s'est passé pour d'autres peuples, le peuple juif, le peuple noir esclavagisé, à travers ces Indiens qui ont été massacrés, que c'est lui qui est la totalité des responsables.
Parce qu'on insiste aussi sur le fait que les Indiens ayant été massacrés, il a fallu faire venir les Noirs à leur tour opprimés par la barbarie des colonisateurs.
Voilà. Et alors à Tegucigalpa, quelques années plus tard, en Honduras, le procès se terminera par une exécution en effigie. Trois Indiens décrocheront sur un portrait de Colomb, trois flèches chacun en exécution. Une mort symbolique qui a lieu, mais cette mort symbolique, on la trouve aussi donc aux États-Unis, avec après surtout les événements de Charlottesville, l'identification de Colomb.
Les événements de Charlottesville, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire ces émeutes de 2017 suscitées par des extrémistes blancs, suprémacistes, néo-nazis, qui conduisent à la mort d'une jeune noire. Et là, Colomb bascule du côté du général Lee comme un témoin de cette histoire qui a entraîné dans le monde américain cet esclavage, ce racisme. Et c'est une chaîne qui remonte à auparavant. En 1992, vous en avez parlé tout à l'heure, ce sont ces statues qui sont brisées, la volonté aussi demandée et qui demeure au maire de New York d'enlever la colonne au sommet de laquelle, à un des angles de Central Park, il y a la statue de Colomb. Donc, un iconoclasme.
Au sens propre, oui.
Les États aussi qui abandonnent de fêter le Columbus Day pour le transformer en un Native Indigenous Day.
C'est-à-dire le jour des peuples indigènes.
Voilà. Oui. Et aussi, dans toute l'Amérique, le Dia de la Raza, qui commémorait le 12 octobre la découverte de San Salvador, qui est transformée en journée aussi des peuples autochtones. Donc, Colomb, là, c'est vraiment la sortie de l'histoire qui est programmée. Aux États-Unis, des enseignants du secondaire demandant que Colomb ne soit plus enseigné comme le découvreur, d'abord parce qu'il n'a rien découvert, et puis deuxièmement parce qu'il est un extorsionnaire, c'est lui qui a fait couper les mains de dizaines d'Indiens. La légende noire de Las Casas se déplace des Espagnols et se focalise sur Colomb.
Qui avait échappé longtemps au XVIIe siècle, au XVIe et XVIIe siècle. Le procès de Fort-de-France, le verdict réclame qu'on fasse disparaître Colomb de l'histoire, qu'on le condamne à l'oubli et qu'on le fasse donc mourir définitivement, sans possibilité qu'il continue à parler de lui-même, pour ouvrir une réconciliation. Et alors peut-être, puisqu'il ne nous reste plus que quelques brefs instants, pouvez-vous conclure que vous le rendez à vos études sur l'Apocalypse, qu'on ne peut pas l'expliquer sans que...
Je pense qu'il faut en revenir à la violence à laquelle Colomb s'est plié. Ces massacres, ces poursuites d'Indiens. Comment expliquer ceci ? Eh bien, c'est parce que Colomb se pense dans le temps de la fin des temps. Et donc, il faut faire vite. Il faut empêcher ces Indiens de se soustraire à la volonté divine, à l'évangélisation. Il faut empêcher qu'ils s'opposent à ces souverains espagnols qui sont messianiques. Et d'où la violence atroce qui anticipe sur les hommes qui, tout au long du XVIe et du XVIIe siècle, vont tuer pour Dieu, pour faire avancer la volonté divine. Et donc, on est au début d'une période dramatique avec Colomb, une sorte de polarisation eschatologique qui fait que l'on tue. Alors, on peut aller encore plus loin, c'est ce que j'ai essayé de faire à la fin. La promesse de l'Ouest de Colomb n'est pas sans certains rapports avec ce que Christian Ingrao a appelé la promesse de l'Est des nazis, tout détruire pour générer cette terre de pureté qui permettra au Christ, ses colons, de régner, et pour les nazis, à la race aryenne de se développer. On pourrait voir dans Colomb aussi donc l'eschatologie comme l'agent dans l'histoire de la tragédie, du mal. Et donc, Colomb responsable, mais en réalité, derrière lui, c'est la focalisation qui intervient dans des périodes différentes. Peut-être la nôtre maintenant commence sur l'eschatologie.
Vous nous conduisez même jusqu'à Daesh, mais à ce point, nous nous arrêterons. Vous avez d'ailleurs souvent travaillé sur les guerres de religion en réfléchissant avec les échos d'aujourd'hui. Votre livre « Les guerriers de Dieu, la violence au temps des troupes de religion » 1525-1610, paru chez Champvallon en 90, a été réédité à bon escient en 2008. Vous avez aussi publié un livre sur Nostradamus. Vous avez invité, il y a quelques années, pour en parler, « Une médecine des âmes à la Renaissance », Payot, 2011. Et puis, bien sûr, hommage au livre majeur qui a fondé notre conversation, Christophe Colomb, héros de l'Apocalypse. C'est là qu'on retrouve votre conclusion, qui est parue en 2006 et que vous venez de rééditer aux Presses universitaires de France dans la collection Quadrige, avec cette postface si précieuse. Vous pourrez retrouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous parlerons du long décrit des journalistes. Le long décrit des journalistes. On nous dit que ceux-ci sont très mal considérés par les temps qui courent. Je crois que nous allons démontrer que ils ont été souvent, dans le passé, également mal considérés, justement, ou selon une injustice. Vous savez que Balzac disait, si le journalisme n'existait pas, il faudrait surtout ne pas l'inventer. J'inviterai Claire Blandin, qui est très compétente sur ce sujet, à me rejoindre. Voilà, et maintenant il est temps de passer au générique de fin. Madame notre réalisatrice Yael Mandelbaum.
Depuis des mois, Christophe Colomb voguait sur la mer immense, interrogeant les horizons, les vents des quatre saisons. Les matelots, pauvres garçons, disaient nous n'avons pas.
C'est donc
pas
sur le fond de Charles Trenet, sa chanson Terre, que je vous propose de vous rappeler qu'il s'agissait de l'émission Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, diffusée en direct depuis le Salon du Livre à la Porte de Versailles. Une émission préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yael Mandelbaum, avec notre cher Emmanuel Morse Duncan à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, avec Gwen Michel pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et naturellement, je remercie chaleureusement les équipes de Radio France qui se sont mobilisées au Salon du Livre qu'on appelle maintenant, je ne suis pas vraiment d'accord, Livre Paris, mais enfin, ce n'est pas mon affaire. Je remercie également la documentation et la bibliothèque de Radio France qui m'offre toujours un appui très précieux.
L'eau était sale, oh quel salaud, oh quel méli-mélo. Et puis un jour, tout devint beau, tout devint clair sur la rive. Elle en riait, elle en pleurait, et le monde chantait, oh hé,
terre, terre, oui c'est toi, terre, terre, qui donne la joie, terre, terre, viens savoir, oui terre, je suis à toi, terre, terre,
et merci infiniment. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ancrainte et j'ai le plaisir pour une fois de ne pas lui passer le témoin abstraitement puisqu'elle est là devant moi au Salon du Livre. Bonjour Christine.
Le ciel est parfumé, quand on aura semé, on pourra s'aimer. Terre, terre, disent les bois, terre, terre, dit la loi. Terre, terre, viens à moi. Oui, terre, je suis à toi. Vive la terre, en dit les blondes. Vive la terre, a dit le monde. Vive la terre, en dit les brunes. Vive la terre, a dit la lune. Quoi ?